9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé sur Beurre FM, vous le savez, on se donne rendez-vous tous les jours pour parler de vous, de votre santé, avec la nouvelle génération, de ce qui compte. Aujourd'hui, j'ai invité Koumba Davi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Ça fait longtemps que je vous attends. Hein.
Oui, ça fait longtemps.
Ça fait entre 4 et 5 mois que je vous attends.
Ça fait longtemps qu'on essaie effectivement de...
C'est vrai, c'est que le désir vient du manque.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà.
Alors on m'a parlé de vous, c'est pire parce qu'on m'a parlé de vous. On m'a dit, il faut absolument que tu le rencontres, celui-là il est pour toi. Je dis pourquoi, elle me dit, parce qu'il est différent. Ah, je dis, ah, ça commence à m'intéresser déjà.
Non, c'est vrai qu'avec Delphine, en fait, on s'est beaucoup rencontrés à travers les réseaux sociaux.
Ouais.
Et on suivait, on se parlait beaucoup. On avait aussi cette même envie de courir parce qu'elle court beaucoup.
Ouais.
Et c'est là qu'elle m'a dit, il faudrait qu'on se rencontre, tout ça. Mais elle et moi, on s'est jamais rencontrés. Donc je te rencontre avant Delphine aussi.
Voilà, c'est ça. Mais alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, les gens se connaissent sans se connaître, en fait. Ils se connaissent, socialement, virtuellement, mais ils se connaissent pas en vrai. Et pourtant, le lien est fort.
Le lien est fort parce que je disais qu'on se connaît pas, mais on se reconnaît, en fait, à travers ce qu'on est.
Ouais.
Et ça, c'est fort, en fait.
Bon, alors, pour vous présenter, vous êtes art-thérapeute, danse-thérapeute. Mmh. Alors, effectivement, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce que c'est que la danse-thérapie. Vous êtes coach, conférencier, vous êtes diplômé en expression primitive et vous avez fondé Human Dance Life. C'est une entreprise à la fois solidaire, sociale, créative et humanitaire qui vous ressemble.
Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est des valeurs que j'incarne beaucoup. Donc, au-delà d'un métier, au-delà de toutes les formations que j'ai pu faire, éducateur spécialisé, chorégraphe de danse, c'est vrai que c'est des casquettes. Et c'est vrai que tout ce qui s'est dessiné à travers l'art-thérapie, à travers l'entreprise là que j'ai fondée, c'est vraiment quelque chose que j'incarne et que je cultive au quotidien, au-delà de toute casquette.
Comment est-ce que vous êtes passé du basket au hip-hop à aujourd'hui ce que vous êtes?
Ah ben c'est tout un parcours de vie justement que les autres reconnaissent en moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où moi j'avais comme vision parce que j'étais basketteur à l'époque et j'ai commencé la danse avec le réseau Badland Wanted Posse, donc ceux qui sont quand même reconnus à travers le monde dans la danse hip-hop.
Ah ouais.
Et donc voilà, c'était un long cheminement entre la danse hip-hop et vraiment le social parce que j'étais éducateur spécialisé.
Puis il y a Kerry James et puis après voilà.
Voilà, il y a eu le clip avec Kerry James et moi je voulais pas lâcher ni aucun des deux en fait parce que moi quand j'ai commencé à danser, c'était vraiment dans la banlieue et c'était pour m'empêcher de faire des bêtises ou avec les potes qu'on n'aille pas se bagarrer parce qu'on était beaucoup dans cette époque-là dans les années 99 2000 2001, voilà, c'était le bagarre entre cités et c'est ça qui nous a empêché il y avait comme des bagarres un peu tous les jours mais ça nous a empêché vraiment aller jusqu'au bout de ces bagarres. Donc voilà,
beaucoup d'énergie qu'il fallait laisser s'exprimer,
qu'il fallait canaliser. Ouais. Voilà, on va pas mentir, fallait la canaliser, fallait que nous on se permette aussi d'exploiter nos potentiels et c'est vers cette direction-là justement qu'on était vers la danse en fait. Voilà, concrètement vers la danse et là l'évolution s'est faite vraiment dans une continue. Vraiment une continuité qui m'a permis aujourd'hui d'être art thérapeute parce que c'est vraiment l'association des deux. Utiliser le meilleur potentiel expressif de chaque être humain mais dans une liberté d'expression et dans une visée d'être solidaire.
Alors aujourd'hui, l'art-thérapie, vous la validez par un cursus, en fait. Hein, donc, même si c'est pas très présent encore aujourd'hui, hein, l'art-thérapie, voilà, il y a des cursus qui valident. Et aujourd'hui, vous êtes au niveau du doctorat.
Voilà, ça, c'est-à-dire que ça fait à peu près 40 ans que l'art-thérapie existe, que la pratique vraiment en vient aussi à travers les universités. Du coup, il y a des formations. Moi, j'ai fait une formation en expression primitive auprès de France Cobb Bilman, donc l'atelier de gestes rythmés.
Donc, elle, c'est une référence.
Alors, elle, c'est une pionnière.
Voilà, c'est une pionnière et une référence mondiale.
Une pionnière, une référence mondiale. Elle fait des formations et elle a formé des art-thérapeutes, mais vraiment dans le monde entier. Voilà, c'est vraiment une pionnière. C'est vrai que c'est vraiment un honneur d'avoir fait la formation, d'avoir été son assistant, en fait, carrément pendant 2 ans. C'est vraiment un honneur. Et parallèlement, effectivement, j'ai fait la formation à Descartes et à la Sorbonne, où j'ai été doublement diplômé avec le master, justement, effectué auprès des personnes SDF aussi, en stage.
C'est important, les diplômes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aujourd'hui, qui sont coachs, mais bon, voilà. Donc, c'est important de dire qu'il y a tout un cursus derrière.
Voilà. Et au-delà du diplôme, en fait, effectivement, c'est tout un travail. Parce que les personnes, ils disent, oui, mais c'est les diplômes. Mais j'ai envie de dire, c'est pas seulement des diplômes, c'est des années d'expérience, de recherche, de travail, de personnes que l'on a rencontrées, d'outils, de dispositifs qu'on a élaborés aussi. Donc, c'est pas que des diplômes. Bon, il y a vraiment moi, comme je dis, mon mémoire, j'ai eu 19 à mon mémoire de recherche. Mais parce que pendant 6 mois, je me suis quand même isolé. je me sens enfermé, j'ai refusé les sorties. Il y a des amis que j'ai pas vus, de la famille que j'ai pas vue, mais parce que j'étudiais, je sais pas combien de documents pour réaliser ce mémoire, et parce que je le devais à ces fameuses devs qui m'ont aidé aussi à travers ce mémoire-là. Donc c'est vraiment, c'est du travail en fait. C'est vraiment de, comme je dis, c'est de la persévérance.
Ouais, il faut le dire.
Voilà, non, faut le dire, c'est important.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu coach en tout, vous voyez, donc.
Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a
des gens, ils ont fait une demi-heure de développement personnel, ils sont coach. Donc
ou même, atelier, des formations de 3 mois, 6 mois, j'en ai déjà vu.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut un petit peu inscrire les choses, déjà dans les compétences.
Oui, voilà,
c'est ça que c'est. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie ou la danse-thérapie pour ceux qui nous écoutent? Parce que la danse, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer comme ça, mais qu'on pratique tous, d'ailleurs, vous dites que déjà, ne serait-ce que de marcher tous les jours, c'est déjà danser.
Oui, c'est ça. C'est notre première danse. Et en fait, l'art-thérapie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui redynamise, quelque chose qui est premier, c'est chacun d'entre nous. Pour moi, on la pratique tous, mais de façon vitale. C'est-à-dire que l'art-thérapie, c'est vraiment pratiquer, on va dire, l'artistique, mais dans une visée thérapeutique, dans une visée intégrative. Mais au niveau physique, psychique, sensoriel, j'ai envie de dire même émotionnel, et social, et même spirituel pour ceux à qui ça fait du bien. Mais j'ai envie de dire que l'art-thérapie, on le fait déjà, c'est-à-dire que marcher, et même avant de marcher dans le ventre de notre mère, on a été initié à la danse. Parce que dans le balancement et le rythme du balancement, on a tous eu ces sensations qui sont ancrées dans notre mémoire corporelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, on le fait déjà. Et marcher, effectivement, c'est notre premier pas de danse. Et comme je l'ai dit, si on pouvait se mettre sur la Lune et regarder tous les gens sur Terre, on verrait tous les gens se lever, marcher. Et ce serait beau parce qu'on verrait une chorégraphie en fait mondiale.
Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Moi, je ne sais même pas danser. » Il y a plein de gens qui sont gênés par le fait de danser. Qui sont très empotés, qui sont gênés avec leur corps, quoi, qui savent pas trop quoi en faire. Et si on leur dit danser, les gens vont dire, bah, non, je peux pas, moi, c'est trop la honte.
Mais j'ai envie de dire que ces gens sont beaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de savoir danser, ni de maîtriser la danse.
Savoir bien danser.
Voilà, mais c'est juste être gracieux et apprécier, en fait, ce que l'on est. Parce qu'en fait, je parle même pas de danse, je vais parler de liberté d'expression. Parce que le concept de danse est venu bien après. Mais avant qu'on était petit, on n'avait pas ce jugement et cet auto-jugement de ce regard sur soi.
On faisait n'importe quoi un peu.
Voilà, on s'exprimait. C'est gracieux, on faisait ce qui était bon. On se posait pas la question, en fait, ça avait pas de valeur. Et c'est pour ça que pour moi, tout le monde, en fait, s'exprime librement, mais que ce soit pour la danse, que ce soit pour le chant, c'est après qu'on était conditionné avec le concept artistique, effectivement, de danser, de chanter, donc
Et de bien faire.
Et de bien faire.
Et que ce soit esthétique, et que ça corresponde à des normes.
Alors que nous, instinctivement, depuis l'enfance, on le fait, ça. On le développe, on le cultive. Et on était effectivement conditionné. Alors que c'est tout simplement nos qualités humaines.
Mais qu'est-ce qu'on attend de l'art-thérapie finalement ? Ça s'adresse à qui et pour apporter quoi ?
Alors je dirais que l'art-thérapie est ouvert à tout le monde. Après effectivement il y a des spécificités parce qu'on parle vraiment du coup d'un cadre thérapeutique. Donc on peut le travailler dans différents domaines et avec différents publics. Donc moi particulièrement, je suis éducateur spécialisé de base. Donc j'ai beaucoup travaillé dans mon parcours professionnel auprès des personnes handicapées, en situation de handicap. Donc des enfants peu handicapés, des adolescents aussi et d'adultes. À travers aussi, je travaille avec les enfants en troubles du comportement, donc en CESAD, j'ai travaillé en IME, j'ai travaillé aussi auprès
de. Attendez, parce que vous donnez plein de sigles, d'acronymes, on ne sait pas ce que c'est. Ah. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que vous êtes intéressé beaucoup aux enfants en difficulté, voilà, handicapés, également au sans domicile fixe aussi.
Oui, donc finalement. Ça m'intéresse beaucoup.
Bah oui, ça vous intéresse, mais c'est vrai qu'on voit très peu de coachs s'intéresser au SDF aujourd'hui.
C'est très particulier parce que moi-même, j'ai fait me retrouver dans cette situation, être sans domicile fixe. Et c'est vrai que l'opportunité de travailler avec eux, en fait, a été énorme parce que j'ai pris un risque, en fait, en démissionnant de mon emploi et en allant à la Sorbonne. Donc, faut le faire déjà, prendre ce risque.
C'est-à-dire que vous avez changé de vie à un moment donné.
Voilà. À un moment donné, j'ai pris un risque, j'ai démissionné, j'ai dit c'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là. Donc voilà. Et j'étais persuadé effectivement d'y arriver. Donc je me suis dit je tente le tout pour le tout. Donc voilà. Et j'ai eu l'opportunité, vu que j'avais déjà travaillé 14 ans auprès des personnes en situation de handicap, je me suis dit il faut que je puisse encore apprendre et pas seulement faire une formation pour faire une formation. Et donc je me suis dit va vers un public que tu ne connais pas. Et donc j'ai postulé un peu partout, il y a très peu d'art-thérapeutes, et une art-thérapeute m'a répondu, du coup Julie Lamoine, elle travaille auprès des personnes SDF et sans domicile fixe. Et là je me suis dit, c'est quand même ballot.
C'est quand même, ouais.
Moi qui manque d'être à la rue, expulsion, tout ça, je me dis, travailler avec ce public ça va m'en prendre beaucoup. Et c'est vrai que c'est un public qui m'a beaucoup parlé, parce que moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a sauvé aussi d'être à la rue, c'est particulièrement là, on les appelle des personnes sans domicile fixe, alors que c'est pas le fait qu'elles soient sans domicile fixe qui fait qu'elles sont à la rue, c'est du fait qu'elles n'ont pas des liens sécurisants et bienveillants. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je devais parler de ma situation. Parce que c'est le fait de parler de la situation, du coup, de la communication qui a fait que j'ai pas fini à la rue. Et eux, c'est pas le manque d'argent ou le manque de lieu, c'est le manque de lien avec les autres, en fait. Et donc, c'est ça qui m'a amené à travailler avec ce public et à me spécifier avec ce public aussi.
Mais si vous n'aviez pas, vous, ressenti à un moment donné que vous étiez pas loin de le devenir, est-ce que vous auriez travaillé avec eux?
Alors oui, parce que j'avais cette envie, oui, parce que j'avais cette envie, en fait, quand j'ai fini mon cursus d'éducateur spécialisé, comme je dis, là, du coup, à l'époque, ça faisait 8 ans que j'étais éducateur spécialisé et je voulais un autre public. Et c'était, du coup, les personnes SDF vers qui je m'étais tourné. Mais j'avais pas trouvé, du coup, d'employeur vu que j'avais pas d'expérience dans le domaine. Donc là, c'était une suite, en fait. C'était une suite logique.
Mais finalement, pardon de vous poser la question, mais quand on s'intéresse à des SDF, il n'y a pas de retombées financières.
Mais c'est vrai que
c'est-à-dire que finalement, ça fait un métier, mais des gens qui peuvent pas vous rémunérer.
Oui, carrément. Donc c'est pour ça que pour moi, la richesse n'était pas dans la richesse financière, mais beaucoup plus dans la richesse de liens. On en revient au lien.
C'était de l'altruisme, là.
J'ai créé du lien avec eux. J'étais dans le don. J'étais dans le don, non pas dans le sacrifice, mais dans le don. Mais parce que, en fait, on va dire que ces personnes-là m'ont beaucoup apporté. Je vous dis, elles m'ont sauvé d'être à la rue elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai fait un mémoire aussi conséquent, qui fait comme 150 pages d'études. Mais parce que je voulais vraiment leur rendre. J'ai vraiment construit des liens profonds avec eux. Et avec l'association Aurore aussi, pour le coup. Donc voilà.
C'est incroyable, cette histoire.
Oui. Mais c'est pour ça que je continue aujourd'hui.
Et vous continuez aujourd'hui d'être acteur auprès de...
Citoyennement et humainement, j'habite à la Plaine Saint-Denis, donc Porte de la Chapelle. Donc là, il y a beaucoup de personnes SDF, beaucoup de migrants, effectivement, qui viennent, beaucoup de personnes en errance. Et tant que je peux, quand je le peux, ça, je dis, je précise, c'est pas tous les jours, c'est vraiment quand je le peux avec mes moyens, j'accompagne ces personnes. Je fais des annonces aussi Facebook pour que mes amis viennent me rejoindre, à ces actions-là aussi.
Alors, vous animez des ateliers de danse et expression qui s'appellent Human Experience, mais chez vous, finalement, tout est expérience humaine.
Oui, tout est une expérience humaine.
Et tout est collectif. C'est pas du tout un coaching, on va dire, individuel.
Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que Human Experience, c'est vraiment l'élaboration de deux approches. Donc, j'ai fait la Sorbonne, donc dans ce mouvement thérapie, expression primitive. Et j'ai remarqué que les deux, en fait, on pouvait y travailler autant la relation, qui est très importante. Pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu mon cheval de bataille, c'est vraiment la lutte contre l'individualisme, l'égocentrisme et l'égoïsme. Et effectivement, la liberté d'expression avec les autres permet de travailler ces outils de reliance à l'être humain et donc de nous relier à notre humanité, qui est pour moi notre super pouvoir, c'est la solidarité. C'est vraiment ça. Et donc dans ce contexte, nous on vit en France, où on ferme les portes, on est beaucoup cloisonné, on va beaucoup penser à l'argent effectivement, alors que pour moi, on est riche vraiment que des liens que l'on a. Et l'humanité est riche de tous les êtres humains, et pas de tous les êtres humains qui vont penser qu'à eux.
Et le fait de danser et de danser ensemble, ça permet aux gens de se relier.
Voilà, ça permet aux gens de s'enrichir, d'ouvrir un espace de grandeur en eux qui permet de se relier à l'autre, mais aussi à eux-mêmes profondément, mais avec les autres. Parce que, comme je dis, il y a une valeur que je défends beaucoup, c'est Ubuntu. Ubuntu.
Bah, vas-y, expliquez-moi.
Alors, Ubuntu, c'est vraiment un concept, une philosophie de vie, mais qui pour moi, qui fait partie de l'humanité. C'est je suis ce que je suis. Grâce à ce que nous sommes tous. C'est-à-dire que ton existence est liée à la mienne. Et mon existence est liée à la tienne, intrinsèquement.
Ça vient d'où, cette philosophie?
Ça vient d'Afrique du Sud.
Ouais.
Et quand j'ai découvert ça, effectivement, et quand j'ai compris, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire, Ubuntu, c'est là que j'ai compris la force de l'humanité. C'est-à-dire que de pas penser que à soi, de pas penser que aux autres, mais de penser à soi dans le nous et le nous dans soi.
Penser à soi avec les autres.
Les autres. C'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment une philosophie, mais c'est beaucoup plus qu'une philosophie parce que on n'est pas sans les autres en fait. On est vraiment, enfin, tu vois, là on s'est rencontrés grâce à Delphine aussi, et c'est vraiment cette idée de fraternité, de solidarité et de connexion, mais qui est vraiment pour moi une vérité humaine. On n'est plus de 7 milliards sur la planète. C'est pour ça que je le dis, mais l'individualisme en fait ça n'existe pas. Il y a personne qui est indépendamment des autres en fait. Donc voilà.
Mais effectivement, c'est ça comme les rencontres et alors qu'aujourd'hui les gens sont quand même très individualisés. Ça, c'est
oui, vrai. Mais on va dire que c'est une pensée illusoire parce que ça n'existe pas. quand quelqu'un vit dans un appartement, il a bien été construit par quelqu'un, cet appartement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très illusoire, finalement.
Bon, vous avez une vie, alors, en tout cas, très, je sais pas si elle est incroyable, mais vous avez un parcours intéressant.
Merci.
Alors, je sais pas, parce qu'on n'est pas filmé, là. J'ai demandé à ce qu'on filme pour qu'on vous voit. Vous avez perdu 50 kilos. J'ai du mal à vous imaginer avec 50 kilos en plus, parce que vous avez fait jusqu'à 115 kilos.
J'ai fait jusqu'à 115 kilos. J'ai même perdu plus de 80 kilos en fait.
Alors parce que vous avez fait des allers-retours, hein, parce qu'effectivement vous avez maigri. On verra un petit peu finalement. Parce que c'est douloureux de perdre 50 kilos.
Aujourd'hui, on
nous fait croire qu'on vous met un anneau et que finalement. Vous êtes tranquille, vous perdez 50 kilos, mais
alors que psychiquement, il y a tout un travail aussi à faire.
Voilà, alors que vous avez choisi une autre voie aujourd'hui, et c'est ce que vous nous raconterez tout à l'heure. Kumba Davi, ça fait plaisir de le recevoir ce matin. Il est notre invité jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, c'est parfait, le micro fonctionne. J'ai invité Kumba Davi, vous êtes art thérapeute, danse thérapeute, conférencier, diplômé en expression primitive, et vous avez fondé Human Dance Life, une entreprise solidaire, sociale, créative et humanitaire. Vous avez même vous-même mis sur pied votre propre façon de méditer aujourd'hui. Comment vous l'appelez?
Oui, Human Méditation.
Voilà. C'est-à-dire, ça consiste en quoi, Kumba?
Alors, Human Méditation, c'est vraiment un flot de concentration. En fait, c'est vraiment prendre le temps de s'ouvrir aux autres et de faire un espace de grandeur en soi afin de s'épanouir pleinement, en fait, et concrètement, chaque matin, comme un rituel. Et j'explique aussi ça par la force de la répétition, où chaque matin, on s'ancre dans un état d'esprit où on prend le temps de se préparer à la journée qu'on va vivre et aux difficultés aussi qui peuvent arriver.
C'est-à-dire que donc, quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites?
Alors, quand je me lève, je prends le temps, avant de me lever, justement, je prends le temps de m'éveiller. Donc, je n'ouvre pas tout de suite les yeux. Je prends le temps de sentir mon cœur battre, de le remercier, de sentir la vie en moi, et de remercier, voilà, mon corps pour cette nuit passée, de remercier, la vie pour cette vie qui me permet de vivre encore aujourd'hui et de l'ouvrir comme un cadeau. Et ensuite seulement, j'ouvre les yeux. Et après, je me pose, en fait, j'allume une bougie, j'allume de l'encens, et je prends le temps, du coup, de remercier le monde et de penser au monde aussi, de vous offrir, en fait, une prière à tout le monde, en fait, à chacun d'entre vous. Même si je vous connais pas, je reconnais tout le monde dans l'existence qu'il est aujourd'hui. Et donc, je remercie vraiment tous les êtres qu'il y a sur Terre.
Donc, et là, vous êtes prêt à démarrer votre journée?
Et après, je suis prêt à démarrer ma journée.
Le rituel, c'est important chez vous?
Oui, le rituel, c'est très important parce que c'est vraiment la répétition. Comme je dis, on devient ce que l'on fait à répétition. Donc si je pense aux autres dès le matin et que je prends ce temps-là pour apprécier le moment, moi-même, ça me structure dans le temps, ça me structure dans l'espace, et du coup, ça me permet aussi de construire les relations au-delà de moi.
Et d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, vous pratiquez la course, et chez vous, c'est très ritualisé aussi, la façon de
c'est très ritualisé. Alors, effectivement, je cours chaque matin, mais tout ça, c'était effectivement un long parcours. Avant, je pouvais pas courir quand je faisais 115 kilos, justement.
Enfin, vous pouviez courir, mais c'était dangereux pour les articulations. Voilà.
J'ai fait une, je crois que j'ai couru, je courais un peu, mais pas tout le temps. Après, le médecin m'a dit, il faut vraiment faire attention. Et donc, quand j'ai entrepris justement cette perte de poids, quand j'ai repris mes études, j'ai commencé à courir quand j'étais à 80 kilos. Et c'est vrai que c'est devenu, j'ai retrouvé justement ce plaisir que j'avais à courir chaque matin, parce que ça me permet aussi, mais c'est une sorte de méditation aussi, courir, parce que j'ai remarqué que ça redynamisait ma créativité. Et c'est vrai que chaque matin, c'est vraiment comment cultiver la persévérance, la combativité, parce que chaque matin, des fois, j'ai pas envie de courir. Mais le fait de dépasser cette difficulté, en fait, ça m'a permis, et je l'ai vu même sur moi, du coup, de me dépasser, de travailler le dépassement de soi. Du coup, et là, même individuel, mais complètement connecté aussi à tout le monde, parce que chaque matin, je prenais le temps de méditer aussi.
D'accord, vous n'avez pas envie d'aller courir le matin, mais une fois que vous y êtes, c'est bon.
Une fois que j'y suis, c'est bon.
C'est ça.
Après, des fois, je me lève avec l'envie.
Ouais.
Mais il y a des fois, on va pas se mentir, il y a des matins où j'ai pas envie. Il pleut, j'ai pas envie, où je suis fatigué, j'ai pas envie. Mais après, je me dis, allez, vas-y. Oui, c'est l'exemple de motivation, mais des fois, la motivation, elle part. Donc après, on est plus déterminé. Et quand des fois, t'en manques de détermination, qu'il y a des vraies difficultés, c'est là que je persévère, en fait. Et comme je dis, je perce. Je persévère les difficultés, on les perce. Et quand je me lève et quand je cours, je remarque même pas que je cours, en fait. Ça, c'est limite de la méditation pour moi. Et après, quand je reviens, Ben, j'ai toutes mes endorphines qui sont activées et j'ai plein d'idées pour les projets, j'ai plein d'idées pour les livres. En fait, ça, je suis accro à la course parce que ça me permet vraiment de développer même mes projets.
La course, c'est incroyable pour ça.
Ah oui, non, mais
la course, la marche aussi, hein.
Pour oui, la course, courir, la marche dynamique. Ouais. Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est vrai que ça active, hein. Et vous partez, votre cerveau part et.
Il s'agit que même ritualiser, en fait. C'est-à-dire que, à partir du moment où on s'engage dans quelque chose qui est ritualisé, qu'on refait à répétition, on s'ouvre à quelque chose. On ouvre un espace qui nous permet de découvrir et de découvrir ce que l'on va devenir. Parce qu'on l'inscrit dans le temps concrètement.
Bien. Alors, on filme l'entretien, comme ça les gens pourront vous voir. On a du mal à imaginer que vous avez fait 115 kilos. Vous avez toujours été gros. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous disiez gros, mais en tout cas, vous avez été bien portant. Voilà.
J'ai toujours été costaud.
Plus envie que pitié. Mmh. Est-ce que vous aviez des problèmes avec votre corps quand vous étiez gamin, ado?
Alors quand j'étais enfant, je dirais pas que c'est un problème, mais je dirais que c'était comme une, pour moi c'était logique en fait d'être costaud, parce que pour moi c'était, vu que dans ma famille on est tous costauds, pour moi c'était comme ça être un homme, c'était comme ça dans un premier temps, et en plus il y avait cette deuxième chose là où dans la cité c'est vrai qu'on se battait beaucoup, et c'est vrai que j'ai eu conscience aussi que plus j'étais corpulent et plus ça me protégeait des bagarres. Donc voilà.
C'était votre armure, en fait.
C'était mon armure. C'est ça que je le dis dans un article que j'ai écrit sur mon site internet, dans le blog. J'ai dit que c'était vraiment mon armure. Et j'ai remarqué, et j'ai eu conscience que c'était vraiment mon armure, que à mes 33 ans.
Ouais.
J'ai grandi, effectivement, en étant costaud, et j'ai jamais eu de difficulté par rapport à ça. Moi, après,
mais vous étiez costaud, mais, sportif, vous dansiez, enfin.
Toujours très sportif.
Le poids n'était pas un handicap à faire beaucoup de choses.
Non, ça m'a jamais gêné concernant le sport parce que voilà, j'ai quand même couru, même si c'était moins longtemps, moins souvent. Je faisais du basket, je faisais de la danse. C'est vrai qu'on me posait beaucoup la question, mais David, tu danses toujours? Je disais, ben oui. Et ça m'a pas empêché d'être champion national chorégraphique. Enfin, ça m'a pas empêché de, voilà, de faire
les choses. Le poids n'était pas un handicap à faire ce que vous aimiez faire.
Pas du tout. Par contre, effectivement, je pense que j'avais des difficultés dans les vêtements. À m'habiller. Ça, par contre, ça, je le reconnais. Quand j'allais dans des magasins, c'est assez compliqué de trouver ma taille, d'avoir des, mais surtout les vêtements pour hommes. Déjà, on n'a pas beaucoup de magasins.
Surtout que maintenant, on est un peu dans les XXS. Vous voyez, c'est un peu.
Voilà, c'est ça. Donc, franchement,
ça colle maintenant.
Ça, par contre, c'est une difficulté au niveau des vêtements.
Ouais.
Après, c'est plus les gens qui m'ont fait remarquer que j'étais costaud, mais parce qu'en fait, ils me le disaient pas. Finalement, quand j'ai grossi, je me suis dit, mais il y a personne qui m'a fait remarquer qu'aussi que j'ai grossissais. Alors que quand j'ai maigri, on m'a fait remarquer que je perdais du poids. Et j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez rien dit en fait quand j'étais costaud? Et pourquoi, par contre, quand c'est conscient que je perds du poids?
Vous avez tous un avis là-dessus.
Voilà, ouais. C'est ça. Alors que c'est conscient et pour le coup, c'est vraiment une démarche dans mon épanouissement.
Pourquoi est-ce que les autres, quand on démarre une démarche de perte de poids, ne sont pas des alliés?
Ben, je pense que c'est pas seulement la perte de poids, je pense que c'est à partir du moment où t'évolues. Parce que les
quand
autres,
tu changes,
quand tu évolues, parce que les gens, ils sont attachés à toi. Voilà, c'est pas négatif, mais ils sont attachés à l'image de toi. Mmh. Alors qu'on est tous faits pour évoluer, que ce soit dans l'esprit ou que ce soit physiquement. Et donc ça, c'est pas, les gens à la base, ils sont attachés en fait à quelque chose que tu as. Et donc, il y a cette première chose là. Et la deuxième chose, c'est que quand tu incarnes le changement, concrètement, quand tu cultives, tu peux renvoyer aux autres quelque chose que eux ne font pas. Leurs propres limites, leurs propres pensées limitantes et leurs propres peurs. Et donc c'est pour ça qu'il faut être aussi compatissant envers eux, parce que moi j'essaie de faire attention à toutes ces personnes justement qui ont des pensées limitantes envers moi, mais de leur dire écoute, ça t'appartient, c'est tes pensées limitantes, c'est tes projections, moi le risque que je prends ou là où je veux aller, ça me regarde. Si effectivement toi avec tes pensées limitantes et tes propres peurs tu n'oses pas faire ce chemin d'évolution, parce que on est tous destinés à évoluer concrètement, il n'y a pas que notre corps, notre esprit aussi, notre cœur, notre humanité. Mais si tu as choisi effectivement de cultiver un peu cet ancrage où tu vas freiner ton changement, ce qui va entraîner des difficultés aussi chez toi, des incohérences aussi. Mais moi, j'accepte le changement chez moi. J'accepte cette évolution chez moi, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et c'est pour ça que je dis, c'est que c'est comme une plante. Une graine ne va jamais rester qu'une graine. Si elle est alimentée correctement par la terre, si elle est alimentée correctement par l'eau, bah, va pousser, va grandir, va s'épanouir. Donc pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, qui sommes aussi de la nature, on va se stopper psychiquement.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites ça suffit, je n'aime plus mon corps, je n'aime pas 115 kilos. Quand vous vous regardiez dans une glace, qu'est-ce que vous voyez à l'époque?
Alors, je me suis toujours aimé, ça par contre, je me suis toujours aimé, mais le déclic a fait, c'est quand j'étais à 115 kilos. Je suis monté sur la balance un jour et je vois le chiffre 115 qui s'annonce. Et là, ça fait un déclic. J'ai commencé à toucher mon corps, mais vraiment le geste.
Donc là, vous le faites. Là, vous êtes en train de toucher votre ancienne couane.
Je me remémore le moment. Ouais. Je me vois prendre mais voilà, c'est les bourrelets. Je me dis, mais ça va être impossible. Et je me regarde, je me dis, mais je travaille. Quand est-ce que je vais avoir le temps pour faire tout ce sport-là? Je me dis, mais c'est impossible. Je me dis, je vais faire une opération. C'est pas possible. Et quand je vais voir un médecin, il me dit, mais vous êtes pas assez gros. Ah, je me dis,
Mais vous trouviez comment?
Mais avant, je me trouvais pas gros. C'est-à-dire que sur la glace, il y avait pas de souci. Mais c'est le chiffre, en fait, qui m'a marqué la limite. Le chiffre m'a mis une réalité en face, concrètement. Me dit, stop. Et là, je me suis dit, ok. Quand le médecin m'a dit pas d'opération, enfin voilà, je me suis dit, mais je vais pas grossir exprès pour faire une opération. Là, je me suis dit, mais gars, tu vas devoir t'investir en fait. C'est toi qui vas devoir suer. Il y a personne qui va. Tu vas pas t'économiser en fait. Et c'est là que tous les jours, après mon travail, ou entre midi et deux, j'allais faire du vélo. Tous les jours, une heure de vélo cardio. Ensuite, j'ai commencé, pareil, à faire la course tous les jours. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et ça s'est fait petit à petit. Et je faisais 6 heures de sport par jour. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a pris.
Au moment où vous décidez que 115, c'est pas un chiffre qui vous va bien à la tête, est-ce que vous fixez un objectif? Est-ce que vous vous dites, je vais perdre 50 kilos, je vais devenir comme ça? Ou vous vous dites simplement, je vais mincir?
Alors, j'avais pas du tout d'objectif à l'époque. C'est vrai que je me suis dit, je veux mincir. Et c'est vrai qu'il y a eu ce que j'appelle l'entonnoir. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut perdre du poids, on va de plus en plus. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai minci jusqu'à 90 kilos. Là où j'étais bien, non, 80 kilos, j'ai repris 10 kilos après avec l'université.
C'est-à-dire que 80 kilos, ça fait moins 35 kilos, quoi.
Voilà, j'étais déjà bien.
C'est pas mal.
Et après, je me suis dit, je continue parce que là, j'aimais bien le sport. Enfin, il y a tout. Quand on ressent son corps pleinement avec pour moi, c'est comme si j'avais eu des super pouvoirs. Et là, je découvrais, en fait, mes compétences. Et là, quand tu découvres les compétences de ton corps, les potentiels, tu te dis, mais je savais pas que mon corps pouvait faire ça. Et là, pour moi, c'est comme si mon corps m'offrait un cadeau. Ce que je veux dire, c'est il m'offrait les compétences, le potentiel et les qualités que j'avais, mais que moi-même je freinais psychiquement et physiquement. Parce que parfois on peut avoir peur effectivement de ce qu'on représente. On peut avoir peur de cultiver ce qu'il y a de plus puissant en nous et d'être concrètement en contact avec. Et là, pour moi, j'ai touché ça et je me suis dit, mais c'est le potentiel que je touche chez moi, il est énorme. Et c'est vrai que j'ai toujours continué du coup à faire du sport, parce que plus je fais du sport, et c'est pas seulement le sport, c'est plus je pratique ces rituels et plus je découvre mon corps et plus je découvre en fait finalement les qualités que j'ai.
Alors, vous n'aviez pas de méthode au départ. Non. Vous avez au fur et à mesure bricolé, inventé et participé à l'élaboration de votre propre méthode.
Ça. Mais c'est pour ça que c'est Human Experience, c'est tout à fait ça.
C'est ça. C'est votre histoire aujourd'hui que vous restituez, que vous partagez avec les gens. Mais cet outil, c'est vous qui l'avez fait. Qui c'est qui vous a aidé mentalement, qui vous a accompagné dans cette aventure?
Alors, je dirais même humainement, il y a eu ma cousine, beaucoup, ma mère, qui est une grande inspiration pour moi, parce que ma mère, c'est un exemple de persévérance. Quand on a quitté les Antilles pour venir en France, loin de sa famille, avoir le métier de femme de ménage et se baisser tous les matins pour nettoyer et se briser le dos, et qu'on sacrifie son argent pour inscrire son enfant dans des écoles privées, pour moi, c'est un exemple d'inspiration. Et donc...
Mais vous lui avez dit ça?
Oui, je lui ai dit. Elle l'a même découvert à la radio aussi.
D'accord, bon, donc vous lui avez dit.
Non, je lui ai dit et je lui dis merci. Après, des fois, elle ne comprend pas quand je lui dis merci, parce que ma mère, c'est vrai qu'elle a été un peu brisée par la vie aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est dur d'être en France, comme je dis, et de vivre l'isolement. Donc ma mère, elle-même, a subi cet isolement, parce que ce n'est pas du tout la même façon de vivre en Guadeloupe qu'en France. Et c'est pour ça que cette histoire de lien, pour moi, ça compte beaucoup. Et c'est pour ça que les Human Experience, c'est vraiment travailler les liens. Et donc, ma mère m'a accompagné dans ça, sans le savoir. C'est vraiment une inspiration. Il y a mon père aussi, mon père que je ne connais pas. Mais le fait de ne pas le connaître, mais comme on est toujours parlé, c'est aussi un exemple d'inspiration et de me dire, un jour, j'aimerais vraiment le connaître. Et de par ce que je fais, c'est lié parallèlement. Je me dis, un jour, peut-être qu'il entendra parler de moi aussi. Et que ça va nous amener à nous reconnaître aussi. Et c'est même pas à nous connaître, c'est à nous reconnaître. Donc voilà, c'est vraiment mes exemples. Après, je dirais que toutes les personnes m'ont accompagné dans tout ce processus. concrètement, psychiquement, c'est toutes les personnes qui sont capables de me parler de leur vie m'inspirent. Toutes les personnes qui osent parler de leurs difficultés m'inspirent et m'aident aussi. Mmh. Après, il y a effectivement, par contre, à travers les réseaux sociaux, j'ai connu un coach américain qui s'appelle Eric Thomas, qui a des paroles très percutantes, qui, avec ses paroles qui est très importante, qui dit à un moment donné, s'il y a quelque chose que tu ne fais pas dans la vie, ça peut en avoir un impact sur toi, sur les autres. Effectivement, à partir du moment où il a prononcé ces phrases, moi je me suis dit, s'il y a quelque chose que je fais ou s'il y a quelque chose que je ne fais pas, ça peut en avoir un impact sur moi, sur les autres et sur le monde et sur la société. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, je me dois de faire ce pourquoi je suis né. La place que j'incarne, je me dois de l'investir et pas de procrastiner, de pas toujours repousser à demain. Mais si on a tous un potentiel à faire, à cultiver aujourd'hui, mais il est important pour moi de l'incarner et de le cultiver, de savoir autant lâcher prise, on en parle beaucoup, mais c'est pas que le lâcher prise, c'est aussi le tenir bon, la combativité, persévérer, parce qu'on tient bon à la vie. On est tous capables de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a tenu bon face à certaines difficultés, à des objectifs. Donc c'est pour ça, on peut pas que prôner le tenir bon. Le total tenir bon, c'est le total lâcher prise, c'est vraiment la décompensation. Mais il y a aussi vraiment qu'est-ce qu'on est capable de tenir. Est-ce qu'on est capable de cultiver nos engagements aussi envers nous-mêmes, envers les autres.
Mais aujourd'hui, bon, avec moins 50 kilos et quand on vous voit, vous êtes certainement une source d'inspiration pour des tas de gens qui disent bah voilà, Kumba, comment t'as fait? Est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu veux bien m'accompagner dans ma démarche de perte de poids? Qu'est-ce que vous répondez aux gens?
Ben, je leur dis déjà, je vais pas les aider. C'est la première chose que je leur dis. Je suis pas là pour les aider et je pourrais pas les aider. Par contre, ce que je dis, c'est que moi, je peux leur accompagner psychiquement, parce qu'on sait que, je vous l'ai dit, la perte de poids, c'était ma protection. Et donc, c'est une histoire de conscience aussi. Effectivement, après, il faut cultiver le corps physique. Mais si psychiquement et mentalement, tu ne cultives pas ton ancrage, ta volonté et ton intention de ce pourquoi tu veux maigrir, tu auras beau faire tous les régimes que tu veux, tous les régimes alimentaires, tous les sports que tu veux, tant que tu n'es pas réglé psychiquement, ton corps va reprendre sa forme.
Mais 115 kilos, vous vouliez maigrir parce que le chiffre ne vous plaisait pas, si j'ai bien compris.
Alors, c'est le chiffre à la base qui ne me plaisait pas. Mais après, j'ai compris qu'à 33 ans, que je n'avais plus besoin de me protéger parce que je n'avais plus cette situation
d'accord,
de bagarre.
Voilà, donc vous avez enlevé votre armure.
Voilà, c'est pour ça qu'à 33 ans, j'ai compris que ma prise de conscience, c'est que je n'avais plus besoin d'une armure. Je me suis dit, mais je vis à la plaine Saint-Denis, je ne me bagarre plus. Je ne suis plus sujet aux bagarres comme on a, à l'époque il y avait ces histoires et je suis en sécurité à partir du moment où j'ai compris que je n'ai plus besoin de me protéger. C'est ça que je dis, c'était vraiment une prise de conscience au niveau alimentaire et ça s'est fait tout seul.
Kumba Davi est notre invité jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et profitons de la venue ce matin de Kumba Davi, art thérapeute, danse thérapeute, coach conférencier. Et vous êtes diplômé Kumba en expression primitive. Vous avez fondé Human Dance Life. Vous donnez des stages que les gens peuvent rejoindre. Comment ça se passe un stage?
Alors un stage, ça se déroule sur Paris, et du coup à l'espace Maria Canal. Et comme je l'ai dit, c'est un stage, une rencontre, une expérience sociale, sport et bien-être. On va cultiver effectivement autant le corps mais que notre humanité.
D'accord, ça dure combien de temps?
Alors ça dure 3 heures, c'est une fois par mois à l'espace Maria Canal. Donc d'accord. Un quart de Paris en face d'Ikea.
Ouais, et qu'est-ce qu'on fait pendant 3 heures?
Et pendant 3 heures, bon, on se rencontre, on rencontre les autres, on s'épanouit, on célèbre la joie, on célèbre le dépassement de soi ensemble, on célèbre l'humanité, on célèbre justement la combativité aussi, la douceur parce que c'est très doux et c'est aussi très intense.
Comment est-ce que vous partagez votre démarche finalement d'avoir perdu 50 kilos avec les autres?
Mais la démarche, enfin je pense que j'en parle quotidiennement en fait. C'est vrai que je l'incarne déjà au quotidien. Le fait tous les matins que je cours, je fasse des vidéos du coup sur les réseaux sociaux, ça permet aux gens justement d'être tout le temps connectés à ça pour leur montrer que justement je suis pas détaché de ça. C'est vraiment quelque chose que je cultive au quotidien. J'ai écrit un article sur mon site internet pour parler justement de cette perte de poids qui est assez conséquent parce que j'ai vraiment fait l'analyse de cette perte de poids. Donc j'écris vraiment tout un article qui fait plusieurs lignes. On va rappeler qu'il est long. J'ai dit oui c'est important parce que je voulais pas juste donner, c'est pas de la méthode, c'est vraiment je partage mon analyse vraiment et pas que physique mais vraiment l'analyse psychique, émotionnelle, sensorielle et sociale de toute cette perte de poids. Et donc voilà.
Vous avez allégé votre corps, mais vous avez allégé votre façon de vivre aussi.
Oui, carrément. Mais j'ai allégé ma façon de vivre et c'est effectivement au quotidien parce que j'ai une prise de conscience par rapport à la consommation, par rapport à la nourriture aussi. Et donc, ne plus être dans cet ancrage de cultiver le fait de manger tous les jours, trois fois par jour, donc d'avoir de l'argent pour aller chercher la nourriture trois fois par jour, parce que j'ai vu que mon corps, en fait, finalement, n'a pas besoin de manger trois fois par jour, et notre corps n'a pas besoin de manger trois fois par jour. Il a besoin aussi de repos, et de se nourrir, et de se ressourcer aussi.
Donc, finalement, aujourd'hui, vous mangez combien de fois par jour ?
Ben, je mange une fois par jour, ou à ce moment, je bois que du thé, toute la journée.
Je vois. À toute la journée ? Toute la journée. Parce que vous avez découvert aussi les bienfaits du jeûne hydrique.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est vrai que à partir du moment où on est entrepreneur, déjà, on sait qu'on n'a pas de rythme de vie collectif. Donc, on n'est pas rythmé à manger trois fois par jour. Donc, en fait, il y a toute une déconstruction qui est venue, mais vraiment naturelle. Comme je dis, c'est pareil, ce n'était pas un objectif. J'ai remarqué au fur et à mesure que je n'ai pas besoin de manger le soir, ni de manger le midi. En fait, seulement le repas du matin ou seulement le repas de 14h, en fait. Et après, un jour, je me suis dit, ben là, j'ai pas faim. Est-ce que je suis obligé de manger alors que j'ai pas faim? Et le conflit, c'est qu'il était l'heure de manger. Et ça, je me suis dit, mais il est l'heure rituellement de manger, mais mon corps n'a pas faim. Donc, j'ai appris à écouter mon corps parler et à vraiment être au plus près de mes besoins. Et même, je dis, c'est même pas le besoin de manger, c'est maintenant, je mange par nécessité. Si je sais que je vais faire un exercice physique, je mange. Si je sais que je vais pas faire d'exercice, je vais pas manger. Ça ne servira à rien. Je vais m'organiser de la nourriture alors que je vais pas utiliser. Et c'est pour ça que je me dis qu'avant, quand même, et comme tout animal, il court pour chasser sa proie. Il fournit un effort. Comme tous les animaux, même les branches, ils fournissent des efforts. Et nous, on va juste, même si on a travaillé, effectivement, on fournit un effort, c'est de l'argent. Et on va payer, du coup, la nourriture. Mais du coup, c'est pas le même effort.
Il y a beaucoup de gens qui ont du poids à perdre, hein, qui ont même beaucoup de kilos à perdre. Ça peut être 50 kilos, mais 50 kilos, c'est beaucoup, mais qui peuvent avoir 25 ou 30 kilos à perdre. Et qui pensent que finalement, leur vie ira mieux quand ils auront perdu ces 30 kilos. Vous qui avez perdu 50 kilos, finalement, est-ce que ça valait le coup de le faire? Et qu'est-ce qu'il y en a comme bénéfice? Qu'est-ce qui a changé de plus chez vous?
Alors, tout est une question d'intention, effectivement. C'est-à-dire que si on perd 50 kilos pour entrer dans une robe, si elle est juste avec elle-même, si elle est en harmonie avec ça, ok. Si elle n'est pas en harmonie avec ça, effectivement, ça va être compliqué. Parce que même si, on va dire, si l'intention est juste, on peut être au clair sur le fait de perdre du poids. Si l'intention n'est pas juste, effectivement, on ne sera pas satisfait. Et ça dépend quel objectif on veut avoir. Moi, je sais que j'avais pas d'objectif, donc ce qui fait qu'effectivement, j'ai pas été déçu. Et à aucun moment, j'ai été déçu, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Donc, je voulais perdre du poids. Voilà, c'était ça. Et pour moi, les bénéfices aujourd'hui que j'en ressors, c'est-à-dire que, j'ai fait de la place. J'ai fait de la place parce que, il y a des personnes, ils m'ont dit, mais Davy, on dirait que tu es la moitié de toi-même. Je dis, oui, c'est-à-dire que tout l'aspect de la personne qui se protégeait aussi des autres, parce que c'est aussi ça, les 50 kilos, on parle d'une armure. Une armure qui protège de quoi? Des autres. Donc avant, je me protégeais des autres. Et donc là, concrètement, on l'a vu, les bénéfices, j'ai intégré l'université. Les bénéfices, j'ai créé mon entreprise. J'ai rencontré plus de 3000 personnes à travers mes interventions. J'ai réussi à me déplacer. Du coup, ça m'a donné de la confiance aussi pour me déplacer pour chercher des contrats. Aujourd'hui, j'ai aussi de nouvelles personnes qui sont autour de moi. Donc, au niveau social, au niveau psychique, au niveau mental, au niveau sensoriel, effectivement, je me sens mieux et pleinement, on va dire, intégré. J'intègre vraiment mes potentiels et mes capacités. Et donc, effectivement, on va dire que même structurellement, je parle de la structuration et dans l'ancrage, je me sens beaucoup plus ancré et beaucoup plus aujourd'hui solide pour affronter les difficultés. Et comme je dis, je parle beaucoup des difficultés motrices, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les difficultés pour moi sont quelque chose de moteur, un moteur puissant qui me permet de grandir et de me nourrir et d'apprendre encore plus.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une discrimination anti-gros.
C'est-à-dire
qu'en fait, finalement c'est plus compliqué pour aller chercher des contrats, pour si je vous écoute bien, quand on a plus de poids.
Non, moi je dirais que c'est pas plus difficile. Je pense que si on est à l'aise avec ça, y a pas de souci. Moi je sais que j'étais à l'aise, mais c'est le chiffre en fait effectivement qui psychiquement m'a percuté. Ça m'a percuté.
Vous auriez pas pu aller à la fac à 115 kilos.
Je pense qu'il y avait pas cet espace corps esprit qui était en accord. Ouais, c'est vraiment c'est pour ça que c'est pas le fait d'être gros, c'est vraiment cette harmonie entre le corps esprit qui n'était pas en raccord en fait. Et comme c'était pas en raccord, effectivement, j'avais cette difficulté d'avancer. Et quand il y a eu ce chiffre en fait, ça m'a permis de visualiser comment je pouvais mettre en accord le corps et l'esprit, parce que l'esprit a dit tu n'as plus besoin. Quand il a vu l'esprit a dit tu n'as plus besoin de te protéger. Et là mon corps a dit d'accord. Et ils se sont mis d'accord tous les deux.
Vous travaillez beaucoup sur le lien que nous avons avec nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut l'entretenir, ce lien, et le dynamiser?
Alors, comment on peut entretenir ce lien? C'est d'accepter, en fait, déjà la relation avec nous-mêmes et les autres. Parce que tout est lié. Et de pas penser qu'à nous, de pas penser qu'aux autres, mais d'accepter la relation, en fait, qu'il y a entre nous et les autres, parce que le lien, du coup, il est infini. Et quand tu comprends que le lien avec les autres, il est infini, tu comprends aussi qu'il est inépuisable et qu'il est intarissable. Parce que chaque rencontre est une opportunité d'aller plus loin et d'aller ensemble. Et ce lien-là, effectivement, il est, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu sais pas ce qui peut se passer. Parce que tu vas te découvrir en l'autre. Et en te découvrant l'autre, l'autre va se découvrir en toi. Et donc, tu vas grandir. Et tu vas grandir avec l'autre et tu vas apprendre. Mmh. Et donc, en fait, la convivialité, bon, on peut l'apprendre que dans les rencontres. Et qu'en ouvrant cette rencontre.
Quelle définition, Kumba, vous donnez au mot MST?
Alors, le mot MST, mais j'appelle ça du coup la maladie socialement transmissible. Donc, je parlais de ça, effectivement. Mais,
c'est intéressant parce que beaucoup de personnes sont amenées à rencontrer des problèmes à un moment donné de leur vie et peut-être ressentent ça.
Oui, mais parce qu'en fait, il y a des situations que moi, j'ai pu vivre avec certains de mes proches. Quand j'ai eu mes difficultés, quand j'ai annoncé mes difficultés, même moi, j'avais peur d'en parler. C'est vrai qu'on a des difficultés à la base, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on n'a pas envie que le regard des autres change, parce qu'on se préoccupe beaucoup du regard des autres. On n'a pas envie aussi de faire porter aux autres nos difficultés parce qu'on a envie de prendre soin d'eux. Et donc, c'est vrai que du coup, on considère que notre situation sociale, notre image, en fait, est une maladie, en fait, que c'est une difficulté et on veut pas la montrer, on veut pas en parler, en fait. Et c'est pour ça que ça, c'est le docteur Mercuel qui parlait effectivement de MST, de maladie socialement transmissible, parce que les gens aussi ont peur que tu peux leur transmettre leurs difficultés ou peut-être des ondes négatives et donc ils s'écartent de toi. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on peut finir à la rue, malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui vont s'écarter et nous, on va avoir peur aussi de parler de nos difficultés. Alors que pour moi, aujourd'hui, j'ai compris que le partage de nos difficultés, c'est un partage aussi d'expérience. C'est un partage aussi qui nous permet de communiquer. C'est-à-dire que communiquer et s'exprimer, c'est vital pour nous. Alors que si on communique pas, si on s'exprime pas librement, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus néfaste. Et c'est là effectivement que ça peut être néfaste pour nous et pour notre entourage. Et moi, j'ai remarqué que depuis que je parle de mes difficultés sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers Instagram ou à travers Facebook, ou que ce soit à travers des conférences, ben les gens, en fait, ça les inspire, ça les encourage. Je dis, mais lui aussi, en fait, il vit ça? Ben oui, mais parce qu'on croit qu'on est seul à vivre les difficultés. Alors que non, on les vit tous, on vit tous dans ce contexte. Mmh. Aujourd'hui, en France, on a des difficultés d'argent, on a des difficultés par rapport à un employeur, on a des difficultés par rapport à une perte de poids, on a des difficultés, par rapport à notre famille, par rapport à une personne ou en couple. On en a tous, en fait, des difficultés, même des difficultés par rapport à nous-mêmes.
Donc il ne faut pas les garder, en fait.
Il faut les exprimer. C'est vital parce que c'est des informations que chaque personne a besoin d'entendre aussi. Nous-mêmes, déjà, à nous, ça nous fait du bien de les exprimer. C'est-à-dire, s'exprimer, déjà, pour nous, c'est vital. Ça, c'est thérapeutique et au-delà des thérapeutiques, c'est vital. S'exprimer, pour nous, c'est un besoin qui est vital. C'est le besoin de communication. On en parle dans la pyramide de Maslow et de Anderson. C'est un besoin vital, la communication. Et en plus, c'est un besoin vital, la transmission, de recevoir l'expérience de l'autre.
C'est pas les plus importants, hein, comme vous savez, chez Maslow.
Si, là, en fait, il y a les 5 besoins vitaux.
Ouais.
Et il a critiqué la pyramide. Il y a les 5 besoins et moi, j'ai écarté, en fait, cette pyramide-là quand j'ai découvert, effectivement, la pyramide de Anderson et Maslow. Et là, effectivement, elle est beaucoup plus complète. Vous irez la voir sur Internet parce qu'elle parle vraiment du besoin d'appartenance, pour ceux que j'utilisais, en tout cas, dans mes mémoires de recherche, et le besoin de communication. Parce que le besoin d'argent, on parle effectivement du besoin d'argent, du besoin de sécurité, mais du besoin de sécurité par rapport à qui? Si effectivement on cultive la peur, on aura besoin d'être en sécurité.
Ceci dit, aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui consiste à dire qu'on consomme beaucoup trop aujourd'hui.
Oui, la surconsommation.
Et qu'il faut qu'on s'allège parce que la surconsommation ne nous protège pas et ne nous rend pas heureux. Et donc on s'en rend compte.
On s'en rend compte beaucoup, effectivement, parce que la surconsommation, on voit que l'on cherche, enfin, en tout cas, on cherche à nous faire cultiver la consommation. Et donc, nous, on va travailler pour cultiver plus. Du coup, cette consommation, on va chercher du coup à amasser de l'argent aussi plus. Et quand est-ce, à quel moment on va mettre en priorité la vie? À quel moment on va mettre en priorité l'être humain? Et ça, des fois, je me pose la question, mais à quel moment l'être humain s'est laissé tomber? À quel moment l'être humain a décidé de se laisser tomber concrètement et d'aller dans cette surconsommation de l'éphémère, de l'objet et de ce qui est extérieur? Et à quel moment il va cultiver la richesse qui est à l'intérieur de lui, qu'il cherche à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur et non pas dans la consommation, mais dans le fait de cultiver quelque chose qui est déjà en lui et de ne pas chercher à combler quelque chose finalement. Et Human Experience, c'est ça. C'est cultiver quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous, qui est entre nous et qui va nous réunir et nous rassembler.
Bien, justement, si on veut vivre une Human Experience Kumbhalavi, comment on fait?
Alors, Human Experience, ben, je l'ai développé depuis un an sur Paris, où j'ai pu rencontrer 260 personnes qui sont venues vraiment de Paris et de partout. Cette année, on le renouvelle cette expérience à 7 stages, donc de janvier jusqu'à juillet 2019, à l'espace Maria Canal. Donc, ça se trouve dans Paris 19e, si je me trompe pas, ouais. Métro Lumière.
Et comment on s'inscrit?
Et donc, on s'inscrit sur le site internet www.kumbhadevi.com à partir de Facebook aussi, ou à partir d'Instagram. Du coup, il y a des liens qui peuvent aussi vous y accéder. Donc, stage Human Experience.
L'émission est enregistrée. Réécoutez le podcast, partagez-le justement si Kumbhadevi vous inspire. Vous reverrez également l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. C'était un plaisir de vous attendre et de vous recevoir, Kumba.
Meilleurs vœux. Plaisir aussi. Meilleurs vœux à tous et merci.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.